VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30, temps universel. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver pour Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique, en direct de Washington. Le sommaire en ce lundi 5 mars 2018, nouvelle vague d'affrontements meurtriers en République centrafricaine. Appel à une journée ville morte ce vendredi en République démocratique du Congo. Des pays d'Afrique australe suspendent leurs importations de viande d'Afrique du Sud en raison d'une épidémie de listériose.
La listériose, c'est une maladie d'origine alimentaire assez sévère parce qu'elle tue environ 20 à 30% des cas humains.
L'Italie plongée dans l'incertitude au lendemain des législatives marquées par un raz-de-marée de l'extrême droite. Cap également sur Hollywood pour les Oscars où le réalisateur burkinabé Idrissa Ouedraogo a figuré dans le montage en hommage aux grands disparus de l'année. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports un peu plus tard. En République centrafricaine, nouvelle vague de violence à Rafaï, dans le sud-est du pays. De violents affrontements opposent depuis hier une bande armée majoritairement peule aux éléments d'autodéfense de cette ville. Pas encore de bilan officiel, mais plusieurs personnes seraient mortes. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Les affrontements ont éclaté hier dimanche aux environs de 5h du matin. Un groupe d'hommes armés non encore identifiés a pris d'assaut la ville dans le but de reprendre le contrôle aux éléments d'autodéfense. Pour le moment, il est difficile de dire avec exactitude ce qui s'y passe, car toutes les lignes téléphoniques en provenance de cette localité sont coupées. Selon des sources jointes par VOA Afrique à Bangassou, une autre ville proche de Rafaï, les combats se sont poursuivis jusqu'à cet après-midi. Pour l'instant, aucun bilan n'est encore disponible. Selon Ernest Musedio, député de Rafaï, plusieurs personnes ont été tuées, des écoles saccagées, des habitations et commerces pillés ou incendiés. Les assaillants sont des peuls armés venus du Ombomou et du Soudan, a déclaré l'élu de la nation, précisant par ailleurs que leur objectif serait de marcher sur la ville de Bangassou. Pour le moment, Rafaï est vidée de la quasi-totalité de ses habitants. Une partie a fui en brousse et une autre vers Bangassou où les vagues de déplacés continuent d'arriver. À Bangui, ni le gouvernement ni la MINUSCA qui a une présence militaire dans la ville ne s'est encore exprimé sur cette nouvelle spirale de violence. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'attaque terroriste au Burkina Faso, l'enquête continue sur les lieux des attentats à Ouagadougou pour tenter de déterminer les différentes implications. Ce lundi, deux présidents ouest-africains sont arrivés dans la capitale burkinabé pour témoigner de leur solidarité. Le point avec Blanche Sanou.
Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, et le président du Togo, Fonya Singwe, sont arrivés lundi à Ouagadougou. Avec leur homologue burkinabé Rockmar Christian Kabore, ils se sont rendus sur les lieux des attaques, l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Monsieur Issoufou est également le président en exercice du G5 Sahel, une force militaire régionale pour combattre les groupes djihadistes. Les enquêteurs de la police scientifique travaillent d'arrache-pied pour collecter des informations sur les sites des attaques. De plus, les enquêteurs soupçonnent qu'il y ait eu des complicités dans l'armée. Un bilan avait fait état de 7 morts dans l'armée, 9 assaillants tués et plus de 80 blessés. L'attaque a été revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
Niger, l'université de Niamey, paralysée depuis fin février par une grève des enseignants qui protestent contre l'agression d'un de leurs camarades par des étudiants sur le campus. Les grévistes exigent notamment l'exclusion des étudiants agresseurs et la dissolution de la commission des affaires sociales et de l'ordre, l'organe estudiantin qui fait office de police sur le campus universitaire. En République démocratique du Congo, une dizaine de mouvements pro-démocratie appellent à une grève générale ce vendredi pour protester contre la mort de militants tués dans ce qu'ils qualifient de répression criminelle des marches anti-Kabila. Mouvement de grève contre l'état d'urgence en Éthiopie. De nombreux commerces étaient fermés aujourd'hui à Addis Abeba et sa région. L'état d'urgence a été imposé par le gouvernement depuis mi-février au lendemain de la démission surprise du Premier ministre Haile Mariam Desalegn. Cacophonie sur la date de l'élection présidentielle à Madagascar. Le ministère malgache des Affaires étrangères a fait marche arrière aujourd'hui après l'annonce par le chef de la diplomatie de la date du scrutin prévu cette année. La commission commission électorale doit proposer les dates définitives 90 jours avant l'élection. La semaine dernière, le ministre Henri Rabarin Gaïga avait annoncé la tenue des deux tours pour les 24 novembre et 24 décembre de cette année. Élu en 2013, le président sortant, Eri Rajamanmapianin, n'a pas encore annoncé s'il allait ou non briguer un second mandat. En revanche, deux anciens chefs de l'État ont déjà fait savoir qu'ils se présenteraient, Marc Ravalomanan et Andrei Rajoelina.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Arabie Saoudite et l'Égypte vont créer un fonds d'investissement de plus de 10 milliards de dollars sur les rives de la mer Rouge dans le cadre d'un méga projet de zone de développement dans le sud du Sinaï. Une annonce faite lors de la première visite officielle à l'étranger du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Les détails avec Salwa Jaafari.
Le prince Salman accueilli en grande pompe au Caire, signe d'un dégel entre les deux pays après plusieurs mois de brouille. 10 milliards de dollars, c'est la valeur du fonds d'investissement que les deux parties s'engagent à financer à part égale pour construire une méga-cité au milieu du désert. La part des Égyptiens comprend un terrain loué à long terme. L'accord vise à développer le côté égyptien de Neom, projet futuriste aux confins de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte et de la Jordanie, dévoilée par le prince Mohamed en octobre dernier dans le cadre d'un plan de diversification de l'économie pétrolière du royaume. Le projet NEOM, qui nécessite 500 milliards de dollars d'investissement, sera un centre de biotechnologie et de technologie numérique qui s'étendra sur plus de 26 milliards de kilomètres carrés. La visite du prince saoudien, première étape de sa première tournée à l'étranger en tant qu'héritier du trône saoudien, a lieu avant les élection présidentielle prévue en mars en Égypte. Il est attendu entre autres en Grande-Bretagne mercredi et aux États-Unis du 19 au 22 mars.
Au moins 44 civils ont été tués aujourd'hui dans des bombardements du régime syrien sur l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale. Il s'agit d'un nouveau bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les frappes ont visé plusieurs secteurs de ce dernier fief rebelle, proche de Damas, la capitale, depuis avant l'aube. En Italie, les populistes du mouvement 5 étoiles, le M5S et la Ligue d'extrême droite, ont obtenu des résultats historiques aux législatives. Chaque parti revendique le droit de gouverner seul, en excluant toute alliance. Les précisions avec Didi Dico.
La coalition de droite est arrivée en tête avec 37% des voix, mais le parti eurosceptique et anti-immigration du chef de la Ligue, Matteo Salvini, proche du Front National français, a revendiqué le droit de former le gouvernement. Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, a revendiqué lui aussi le droit de former un gouvernement. Son mouvement a triplé le nombre de ses parlementaires grâce aux 11 millions d'électeurs qui ont voté pour ce parti. Son leader, âgé de 31 ans, a évoqué les grands thèmes de la prochaine législature, à savoir la pauvreté, le gaspillage, l'immigration, la sécurité et l'emploi. À défaut de majorité claire, ce bouleversement politique en Italie ouvre une phase d'incertitude pour le pays et pour l'Europe.
Le président des États-Unis, Donald Trump, a affirmé aujourd'hui qu'il pourrait assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem en mai. Il a reçu à la Maison-Blanche le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en grande difficulté dans son pays. Accueillant tout sourire, M. Trump a assuré que les relations entre les deux pays n'avaient jamais été aussi bonnes et affirmé qu'il croyait toujours à la paix au Proche-Orient tout en restant très évasif sur les moyens d'y parvenir. Par ailleurs, le président américain Donald Trump affirme qu'il pourrait transiger sur les taxes envisagées sur l'aluminium et l'acier. C'est un nouvel accord de libre-échange juste avec le Mexique et le Canada était signé. Et je vous le disais en titre, plusieurs pays d'Afrique australe ont partiellement suspendu leurs importations de viande prête à consommer provenant d'Afrique du Sud et rappelé les produits incriminés après l'identification des sources de contamination de la pire épidémie de listériose au monde qui a fait au moins 180 morts depuis l'annonce de cette épidémie. Et d'ailleurs, nous y reviendrons tout à l'heure dans la partie magazine. Le pape François a reçu aujourd'hui au Vatican le jeune chancelier conservateur autrichien de 31 ans, Sébastien Kurz. Le pape a évoqué avec lui la nécessité de la solidarité. Entre les peuples, alliés au parti d'extrême droite FPE au sein du gouvernement. Sébastien Kurz, comme ses voisins de l'Est, refuse d'accueillir des quotas de réfugiés au nom de la solidarité européenne. Les deux hommes ont également parlé de la paix, du désarmement nucléaire et des migrations au cours d'un entretien de 35 minutes. Alors nous restons dans la partie de l'actualité internationale. Alors je le disais que en Italie encore, un homme de 65 ans, en fait pour revenir à la nouvelle concernant la politique en Italie, c'est que l'ancien président du Conseil italien, Matteo Renzi, a annoncé sa démission du Parti démocrate après cette déroute électorale. En Italie encore, un homme de 65 ans, apparemment sorti de chez lui ce matin pour se suicider, a tué par balle un Sénégalais apparemment pris aux arts sur un pont de Florence. Et voilà donc, sans plus tarder, nous retrouvons Blanche Sanou pour la Minute Éco.
Côte d'Ivoire, ouverture à Abidjan d'un colloque sur la sécurité maritime réunissant 50 experts des pays du Golfe de Guinée. Cette rencontre permet d'élaborer des stratégies de sécurité et la planification pour l'utilisation des ressources autour de l'économie maritime. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, le gouvernement ivoirien entend jouer un rôle leader dans la promotion de l'économie maritime dans le Golfe de Guinée. Bangui, la capitale de la Centrafrique, dispose désormais d'une représentation au port autonome de Douala. Ce pays utilise le port de Douala pour plus de 80% de ses exportations et importations. Selon la Direction générale des douanes, près de 55 milliards de francs CFA de marchandises transitent chaque année par le port de Douala. Les autorités portuaires camerounaises expliquent cette nouveauté par leur détermination à reconquérir et fidéliser ses clients. Au Sénégal, la Société nationale de commercialisation des semences a collecté plus de 147 000 tonnes d'arachides au 1er mars. Ce stock représente plus de la moitié du volume escompté par la SONACOS au terme de la phase de commercialisation de l'oléagineux prévue pour s'achever dans les 3 prochains mois. L'arachide est la première culture d'exportation du Sénégal. L'oléagineux représente près du tiers des terres agricoles et emploie environ 2/3 de la main-d'œuvre agricole.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
J-1 en Europe pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.
Oui, le Paris Saint-Germain qui vise une remontada face au Real Madrid, vainqueur 3-1 à l'aller. Le Paris Saint-Germain rêve de refaire le coup de 1993. Souvenez-vous, lorsque le PSG avait surmonté un revers identique à l'aller, mais s'était finalement imposé 4-1 au Parc des Princes lors du match retour, et un certain Georges Weah était à l'époque sur la pelouse. Mais 25 ans plus tard, cela va être difficile sans le meilleur joueur du PSG, Neymar, opéré, vous le savez, ce week-end du pied. Il sera vraisemblablement remplacé par Angel Di Maria sur le terrain. Dans l'autre rencontre mardi soir, Liverpool a la qualification presque en poche en accueillant Porto, battu 5-0 à l'aller. On se souvient du triplé de Sadio Mané.
En Italie, c'est toujours l'émotion.
Davide Astori, capitaine de la Fiorentina, est décédé dimanche à Udine. L'autopsie aura lieu demain et ses funérailles se dérouleront jeudi à Florence, annonce du club italien. Davide Astori, international et capitaine de la Fiorentina, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche dans une chambre d'hôtel où son équipe aurait dû jouer dimanche en match de la 27e journée de Serie A.
L'entraîneur argentin Marco Bielsa va devoir payer.
Marcelo Bielsa, qui conteste son licenciement par le LOSC pour faute grave, a été condamné par le tribunal de commerce de Lille à verser à son ancien club 300 000 euros de dommages et intérêts pour le caractère abusif de son assignation devant la justice.
Et Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, Toronto, leader de la conférence Est, a consolidé son statut de meilleure équipe de NBA dans sa salle en battant Charlotte 103 à 98. La Nouvelle-Orléans a aligné une 8e victoire consécutive à Dallas, 126 à 109. Indiana s'est imposée à Washington, 98 à 95. Et puis les Knicks de New York qui s'éloignent un peu plus des playoffs après leur défaite à Sacramento, 102 à 99.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide en votre compagnie sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson entame à partir de demain, mardi, une tournée africaine qui va le mener au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria. Il s'agit de la première visite du chef de la diplomatie américaine sur le continent. Pour en parler, Abdourahman Nadia a joint à Johannesburg l'un des porte-parole du département d'État, Brian Newbert.
Le secrétaire Tillerson, comme vous savez, a invité 37 délégations africaines à Washington novembre passé. Et donc, il a commencé une série de consultations avec ses homologues africains. Et donc, cette visite est la suite de ces discussions.
Le secrétaire Tillerson se rendra au Tchad, à Djibouti, en Éthiopie, au Kenya et au Nigeria. Est-ce qu'il y a une raison derrière le choix de ces pays?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais souligner que ce n'est que la première visite en Afrique. Donc, ces 6 pays sont très importants, mais nous savons bien qu'il y en a des autres. Donc, il y aura encore une visite en Afrique, on imagine, pendant l'année. Mais bien sûr, ces pays sont parmi les plus grands, qui ont une économie, une puissance dans la région très importante. Et bien sûr, Addis Ababa, il s'agit pas uniquement de réunions importantes avec les autorités éthiopiennes, mais aussi il faut consulter avec l'Union africaine.
L'étape tchadienne sera certainement très importante également, puisque le Tchad est sur la liste des pays dont les citoyens sont interdits de voyager aux États-Unis. Est-ce que c'est une question qui sera abordée?
Probablement oui. Nous n'avons pas tous les détails des sujets, des thèmes qui soient discutés. Mais j'ajouterai que nous travaillons bien avec le gouvernement du Tchad. Nous avons un partenariat dans le domaine de sécurité, mais aussi dans d'autres domaines. Nous pensons que le Tchad va faire ce qui est nécessaire pour être enlevé de cette liste la plus vite possible.
Et la question de la démocratie et des droits de l'homme, puisque certains ici aux États-Unis semblent dire que l'administration ne s'intéresse pas trop aux questions de démocratie et de droits de l'homme. Que répondez-vous à cela?
Les États-Unis en Afrique, nous avons 3 priorités. Tout d'abord, la démocratie. Puis deuxième, développement économique, et troisième, en général, la sécurité et stabilité. Ces 3 éléments, ils vont ensemble. Et le secrétaire Tillerson, il va discuter tous les 3 dans ses réunions officielles. Il va souligner que c'est dans leur intérêt pour la stabilité et pour le développement de l'économie de chercher des moyens de choisir la piste vers une plus bonne gouvernance.
Brian Newbert, porte-parole du département d'État, joint à Johannesburg.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afrique du Sud, les autorités ont déclaré avoir enfin trouvé la source de l'épidémie de listériose qui fait des victimes depuis plus d'un an, la pire jamais enregistrée dans le monde. Sur 950 cas déclarés, on compte 180 morts depuis janvier 2017, d'après l'Institut national des maladies contagieuses. Pour en savoir davantage, Bwakuba Yakuba Ouedraogo s'est entretenu avec Peter Benenbarek, expert de l'OMS en sécurité sanitaire des aliments.
La listériose, c'est une maladie d'origine alimentaire assez sévère parce qu'elle tue environ 20 à 30% des cas humains. C'est une bactérie qui affecte en particulier le cerveau et donc provoque des maladies du type méningite. Elle est particulièrement sévère pour les gens qui ont un système immunitaire réduit, surtout aux gens âgés, aux gens qui sont sous traitement pour des cancers et des transplantations, puis aussi les nouveau-nés et les femmes enceintes.
En Afrique du Sud, il y a eu 950 cas déclarés depuis janvier 2017. 180 sont morts. C'est un bilan assez lourd.
Très lourd, en effet, très lourd. C'est la plus grande épidémie de listériose qui a été détectée dans le monde depuis toujours.
La plupart des cas touchent principalement des enfants. Comment expliquez-vous cela?
La raison, c'est qu'ils ont été infectés quand ils étaient encore dans le ventre de leur mère. C'est donc leur mère qui a consommé des produits contaminés. L'infection chez la mère n'a peut-être pas été très importante ou détectée à temps. Et elle a passé l'infection à leur fœtus juste avant l'accouchement. Et donc les bébés naissent en fait avec déjà l'infection et tombent malades très rapidement durant leur première semaine de vie.
Finalement, les autorités sud-africaines disent avoir trouvé la source de cette épidémie dimanche, un an après le déclenchement de la maladie, et parlent d'une usine alimentaire. Pourquoi tout ce temps-là avant de savoir exactement ce dont il s'agit?
Les épidémies de listériose sont pas faciles à résoudre et il n'est pas facile de trouver la source et souvent on ne trouve jamais la source parce que le temps d'incubation est très long. Il peut durer d'une à trois semaines. Après trois semaines, quand les gens tombent malades et on essaye de les interviewer pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé trois semaines avant ou deux semaines avant, souvent les gens ne se rappellent pas en détail de ce qu'ils ont mangé, donc il est souvent très difficile de faire le lien et d'identifier un aliment qui a été la source de cette infection et donc de faire le lien entre un aliment et ses cas humains. En Afrique du Sud, où c'est apparemment une sorte de saucisse à base de viande qui est consommée de manière très commune par tout le monde.
L'ensemble des produits sortant de cette usine qui a été incriminée vont être rappelés selon les autorités sud-africaines. Quelles sont les précautions à prendre dans l'immédiat?
Il est important justement d'identifier où tous ces produits ont été distribués, de rappeler les produits qui n'ont pas encore été vendus, aussi d'informer les consommateurs des détails de ces produits, potentiellement avec des photos du produit.
Quels sont ces produits à risque là?
C'est justement ceux qu'on ne cuit pas ou ceux qu'on consomme tels. Par exemple, les saucissons, des saucisses, des fromages, des produits laitiers qui ne sont pas réchauffés ou cuits après qu'on les ait achetés.
Peter Ben-Mbarek, expert de l'OMS en sécurité sanitaire des aliments, joint à Genève.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Du cinéma, pour clore le monde aujourd'hui, La forme de l'eau de Guillermo del Toro a été sacré Oscar du meilleur film hier. Le long métrage a remporté au total 4 prix lors d'une cérémonie marquée par de vibrants appels contre les discriminations sexuelles et raciales. Pour faire le point sur les récompenses octroyées lors de cette 90e cérémonie des Oscars, j'ai joint notre envoyé à Hollywood, Arzuma Compaoré.
Alors, en effet, Jacques Aristide, belle moisson pour le Mexique. Guillermo del Toro rentre chez lui avec 2 Oscars, celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Les 2 autres Oscars, comme vous l'avez dit, remportés par son film La forme de l'eau, sont ceux de la meilleure musique et des meilleurs décors. Toujours pour le Mexique, Coco de Pixar a remporté les Oscars du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson. Donc voilà, c'est vraiment une belle moisson pour le cinéma mexicain.
Quels ont été les autres temps forts de la nuit, Arzuma?
Alors, on peut se rappeler que dans le subtexte de la soirée, les sujets comme l'immigration, comme la politique étrangère, les violences sexuelles, la diversité, etc., étaient vraiment présents. Le palmarès a récompensé pour la première fois un cinéaste noir, Jordan Peele, pour son scénario dans le film d'horreur Get Out, dans la catégorie meilleur scénario original. Et l'Oscar du film en langue étrangère est allé au Chilien, une femme fantastique de Sébastien Sebastian Lelio, qui est porté par une actrice transgenre, Daniela Vega. Donc il y a vraiment cette atmosphère de diversité qui est vraiment présente. Il faut aussi se rappeler que sur le tapis rouge, Stéphanie Haddish, qui a ses origines érythréennes, était habillée complètement en tenue traditionnelle d'Érythrée pour rendre hommage à son défunt père qui est mort il y a une année. Et donc c'était aussi un moment assez fort, assez poignant. Et puis entre le discours d'acceptation de Frances McDormand, qui a vraiment enflammé la salle avec un discours d'encouragement pour les femmes. Elle a parlé de cette clause d'équité qui permet aux acteurs, quand ils signent leur contrat, d'exiger, ou en tout cas de demander, au moins 50% de diversité dans leur projet.
Oui, en une poignée de secondes, Arzuma, vous avez parlé de Stéphanie Haddish. Quid de l'Afrique, justement ?
Alors, ce qu'il faut retenir de la mention spéciale que l'Académie des Arts et des Sciences a faite pour l'Afrique, c'est notamment sur Idrissa Ouédraogo, ce grand réalisateur burkinabé qui nous a quittés il y a juste quelques semaines. Idrissa Ouédraogo avait déjà soumis son film Yaba en 1989 aux Oscars, mais il n'avait pas été nominé. Et donc, c'était vraiment un moment d'émotion et de voir que l'Académie avait reconnu son œuvre au cours de cette traditionnelle vidéo In Memoriam qu'ils font chaque année pour rendre hommage à tous les réalisateurs et tous les artistes, en tout cas, qui nous ont quittés au cours de l'année des Oscars.
Mais pas de production africaine.
Pas de production africaine en tant que telle. Watuwate, qui veut dire nous tous en Swahili, qui est un film qui a été coproduit, en tout cas assisté par une école de cinéma au Kenya, a été nominé dans la catégorie court-métrage, mais n'a pas remporté d'Oscar cette année. Donc malheureusement, on n'a pas eu de film africain, en tout cas, représenté cette année aux Oscars.
Notre collègue Arzuma Compaoré à Hollywood. Et voilà, Le Monde aujourd'hui prend fin ici. La réalisation est signée Joselle Morissin. Alfredo était notre ingénieur. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le département américain de la justice a annoncé le 16 février 2018 qu'un grand jury siégeant à Washington a procédé à des inculpations sur la base d'un dossier fourni par le procureur spécial Robert Mueller. Des chefs d'accusation ont été retenus contre 13 ressortissants et 3 compagnies russes pour crimes fédéraux commis dans une tentative d'ingérence dans le système politique américain, y compris l'élection présidentielle de 2016. Selon le dossier d'inculpation, 12 des individus ont travaillé à différents moments pour Internet Research Agency, LLC, compagnie russe basée à Saint-Pétersbourg et engagée dans des opérations d'interférence avec les processus électoraux et politiques. Cette organisation aurait conduit ce que le dossier d'inculpation présente comme étant une guerre de l'information contre les États-Unis avec l'objectif de propager la méfiance à l'égard des candidats et du système politique en général. L'un des prévenus, Yevgeny Viktorovich Prigojin, aurait financé la compagnie Internet Research Agency, LLC, à travers des compagnies qu'il contrôlait, à savoir Concord Management and Consulting, LLC, et Concord Catering, déboursant souvent les fonds par les biais des filiales. Cette opération d'influence ferait partie d'une plus grande opération baptisée Projet Lacta. Le projet Lacta comprend de nombreuses composantes, certaines orientées vers les audiences domestiques, domestiques au sein de la Fédération russe et d'autres visant des audiences étrangères dans des multiples pays. Les prévenus auraient également recruté et payé des Américains pour s'engager dans des activités politiques, promouvoir des campagnes politiques et organiser des réunions politiques. Le dossier d'accusation stipule que les prévenus et leurs complices se sont fait passer pour des activistes américains, ne s'identifiant jamais comme russes dans leur communication avec les Américains. Le dossier inclut 8 chefs d'accusation criminels. Il n'y a aucune indication que des Américains ont pris part à cette activité criminelle en connaissance de cause. Il n'y a aucune allégation non plus que les faits incriminés ont affecté l'issue de l'élection présidentielle américaine de 2016. L'acte d'accusation sert de rappel que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être sur Internet, a déclaré le ministre adjoint américain de la Justice, Rod Rosenstein. L'acte d'accusation affirme que les conspirateurs russes veulent promouvoir la discorde aux États-Unis et saper la confiance publique en la démocratie. Nous ne devons pas leur permettre d'y parvenir. Le département de la justice continuera d'œuvrer avec les agences de maintien de l'ordre et de renseignement, ainsi que le Congrès pour défendre notre pays contre des projets similaires.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.